Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Et le titre de mon message ce soir, c'est je suis non pas un fan, mais je suis un disciple. Et on va voir ensemble ces quelques points, je pense, qui va nous challenger au plus profond de notre être, j'espère. Et que ce soir, nous pourrons quitter ce lieu en disant « Je veux être un disciple de Jésus-Christ, non pas un fan. » Dans Jean 6, donc, vous avez ce moment où Jésus prêche à une foule le suit, il y a des miracles, il y a des signes, des prodiges. Le verset 26, Jésus leur adresse ce message plein d'amour. Jésus leur répond « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. » Mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants. Et continue en disant, oui, je vous le dis, c'est la vérité, vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain. Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un croit, s'il vit avec Dieu pour toujours, le pain qui donne la vie, c'est moi. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours, et le pain que je donnerai, c'est mon corps, je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent. Ils disent, comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Parce qu'il parle de son corps. Jésus leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne vous buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi. Et moi, je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant. Et moi, je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange, comme si Christ n'a pas envie d'insister, celui qui me mange vivra par moi. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent, ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter? Et à partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Notre version dit qu'à ce moment précis, les gens lui ont tourné le dos et ont cessé de le suivre. Moi j'imagine, Seigneur Jésus, c'est bizarre ta façon de prêcher, parce que quand tu as enfin une foule, tu t'arranges pour qu'il n'y ait plus foule le lendemain. Vous savez, cela me parle, ce genre d'église que nous sommes aujourd'hui, nous avons vous et moi, regarde ton voisin, dis-lui, tu as un MDV. Dis-lui, il y a un MDV. Regarde-le, dis, es-tu prêt pour un MDV? Oh, qu'est-ce qu'un MDV? Dans toute relation humaine, il y a des MDV. Lorsque tu sors avec une jeune femme et tu l'aimes éperdument, elle aussi, elle t'aime et elle s'assoit en face de toi et elle te dit, j'aimerais qu'on parle du futur. Là, le gars est un peu nerveux parce que lui, le gars, il aime bien le fun. Et la femme, elle veut que ce soit sérieux. Elle veut un gars qui l'emmène plus loin que simplement du fun d'aujourd'hui. Le MDV, c'est le moment de vérité. Il y aura toujours des MDV dans nos vies. Il y a ce soir, devant cette foule, il y a un MDV, un moment de vérité où Jésus-Christ leur dit, vous savez quoi, je ne suis pas intéressé par une foule de fans. Ce que je cherche, c'est de la consécration. Ce que je cherche, c'est un groupe de gens qui m'aiment et qui me suivent. Il y a, si nous vous et moi sort, nous voulons aller plus loin avec Jésus, il y a un MDV, un moment de vérité. Combien d'entre vous avez déjà eu un MDV avec votre épouse ou votre époux? Oh, le reste des gars, je prierai pour vous. Ce genre de moment où on te dit, chérie, il faut que je te parle. Oh, ok. Ou sinon, il faut qu'on parle. Vous avez vu ce genre de moment? Il faut qu'on parle. Le « il faut qu'on parle » signifie là, je suis dans la galère. Il faut qu'on parle maintenant. J'ai besoin de te parler, c'est important, c'est urgent. Moment de vérité, moment de vie. Il faut savoir ce qui se passe. Et Jésus-Christ, ce soir, nous invite à un MDV, un moment de vérité. Il veut savoir exactement ce qu'il y a au fond de nous. Es-tu un fan ou es-tu un disciple? Regarde-toi d'un dit, es-tu un fan? J'ai cherché la signification du mot fan dans le dictionnaire. Un fan est un admirateur enthousiaste. Un admirateur enthousiaste. un admirateur enthousiaste. Jésus veut savoir ce que tu ressens vraiment pour lui. Jésus n'est pas mort sur la croix pour récolter une foule de fans, mais une famille de disciples. Extrêmement important. Vous savez, les fans font du bruit. Moi, j'aime les fans. Les fans font du bruit. Les fans,
ouais,
font du bruit. Achètent le t-shirt, nourrissent le club avec tous les produits dérivés. Les fans connaissent la couleur originelle de l'actrice, qui elle-même sait plus de quelle couleur cheveux elle avait avant. Les fans savent à quelle heure Justin Bieber va boire son thé sur Beverly Hills. Les fans savent qui fait quoi. Les fans connaissent le nombre de buts marqués par, je sais pas, Pelé. Les fans savent combien de victoires a enregistré Sébastien Loeb. Les fans savent quel est le meilleur basketteur. Les fans savent plein de choses. Ils suivent leur idole. Ils adulent leur idole. Les fans sont au courant de beaucoup de choses. Les fans sont heureux lorsque leur équipe gagne. Ils sautent, ils scandent le nom de leur champion. Tant que ça gagne, c'est bon. Certains fans ne sont que des fans lorsqu'il y a la victoire. Lorsqu'il n'y a plus de victoire, ils fanent. Ils sont fanés. Les fans sont ceux qui suivent Jésus d'assez près pour avoir tous les bénéfices, mais d'assez loin pour ne pas payer de prix. Les fans aiment le fun. Ils aiment la vie, ils aiment les bruits, ils aiment la louange. Mais lorsqu'il faut réellement se poser la question qui dit « M'aimes-tu ? Est-ce que tu me suis ?» Les fans disparaissent. Vous savez, le problème du fan, c'est que le fan aime suivre de loin le roi des rois. Mais ils ne veulent surtout pas que le roi des rois vienne interférer dans leurs affaires. Les fans aiment ce que Jésus promet, mais n'aiment pas ce que Jésus demande. Les fans veulent les promesses sans les conditions. Ils veulent les promesses sans les prémices. Les fans aiment l'idée qui dit « Dieu te sauve, Dieu te libère, Dieu te guérit ». Mais les fans oublient qu'il y a un prix à payer. Les fans oublient que Jésus ne veut pas de fans. Et ce soir, mon message est de s'encourager et de prendre une décision avec moi. Église Extravagance, nous ne sommes pas des fans de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des fans de Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Dans Jean 3, nous voyons un homme qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème, c'est l'histoire d'un fan, mais pas un fan, pas de n'importe quel fan. C'est un fan qui va plus loin que la fanerie. C'est un fan secret, un admirateur enthousiaste secret. Et Nicodème, comme vous le savez, est un homme de Dieu, un pharisien parmi l'élite des juifs de l'époque. Il appartient au Sanhédrin. Nicodème est le top du croyant de l'époque. Aux yeux du monde, Nicodème, c'est le pape. Et Nicodème vient voir Jésus-Christ en secret, la Bible dit en pleine nuit. Un homme qui est, il est étonné de voir ce que Christ fait. Un fan qui aime voir les miracles. Un fan qui aime entendre les messages de Jésus. Mais bien plus que cela, ce fan est touché par son amour et sa joie. Et il sait que Jésus dégage quelque chose et il décide d'aller plus loin. Et c'est le problème du fan. Le fan est toujours entre deux temps. Il se dit, j'aimerais aller plus loin, mais ça va trop me coûter. J'aimerais voir prise de plus proche. Mais le problème, c'est que je ne sais pas trop quoi faire. Et Nicodème était pris dans la galère en se disant, est-ce que je vais suivre Jésus vraiment et perdre tout ce que j'ai ? Nicodème était un enseignant réputé de la loi juive. Il était extrêmement honoré et il ne voulait pas qu'on puisse le voir avec le nouveau rabbin, formation charpentier. Jésus-Christ, charpentier, rabbin, tout le monde le suit, la foule l'adule. Et Nicodème, l'homme de Dieu de l'époque, se dit « Je vais le voir, mais en secret, afin que personne ne puisse me voir. » Vous savez, le problème du fan, c'est que le fan est capable d'avoir une religion en l'honneur de Jésus. Mais le disciple vit par honneur et pour donner honneur à Jésus. Le fan vit une religion en l'honneur de Jésus, mais le disciple a une relation qui fait honneur à Jésus. Et Nicodème s'approche et il sait qu'il est un fan, un religieux. Les fans de Jésus-Christ, écoutez bien, avec beaucoup d'amour, je nous dois ce soir, nous tous. Si tu es toujours ce soir un fan de Jésus, c'est que tu es un religieux. Parce que les fans ont une religion. Les disciples ont une relation. Les fans aiment le système. Les fans aiment le groove. Les fans aiment le fun. Les fans aiment l'église. Les fans aiment l'idée de l'église. Les fans aiment le concept. Les fans aiment la louange. Les fans aiment le t-shirt. Les fans aiment le style extravagance. Le disciple aime Jésus. Le disciple croit en Jésus. Le disciple suit Jésus. Le disciple fait ce que Jésus attend de lui. Parmi les pharisiens, verset 1, Jean 3, il y a un homme appelé Nicodème, c'est un chef juif, il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Un fan veut admirer Jésus, écoutez bien, mais n'est pas prêt à laisser Jésus interférer dans sa vie. Le nombre de chrétiens que je croise, qui déclarent suivre Jésus, mais qui ont du mal à obéir à Jésus, me touche tellement en ce moment que j'ai décidé de faire de l'année 2014 avec le Saint-Esprit l'année où nous allons devenir, vous et moi, des disciples de Jésus-Christ accomplis. Si vous voulez avoir une église où tout est cool et relax, il y en a plein dans le monde. Mais si vous voulez devenir de vrais disciples de Jésus-Christ, restons ensemble et travaillons sérieusement à devenir des disciples de Jésus-Christ. Parce que le jour va venir où Jésus ne va pas revenir pour ses fans, mais pour ses disciples. Un fan admire Jésus, mais refuse l'obéissance qu'il lui demande. Un fan aime Jésus dans l'église, mais a honte de Jésus en dehors de l'église. C'est-à-dire qu'il est prêt à crier « Jésus, je t'aime » sur un t-shirt, mais s'il ne faut pas coucher avec sa petite amie, il ne peut pas s'en empêcher, je le fais quand même. Un fan n'a pas de problème pour faire les choses qui, pour Dieu, sont un problème. Un disciple dira « Dieu est contre que le fait que je couche avec ma petite amie avant le mariage, je m'arrête Seigneur, je suis ton disciple, je m'arrête. » Un fan va dire « C'est cool, c'est pas grave, on fait ce que l'on peut, Dieu comprend. » Ça c'est un fan. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un fan sait toutes les choses au sujet de Dieu, mais ne sait pas, ne connaît pas le cœur de Dieu. Le disciple comprend son cœur. Et ce soir, j'aimerais vous encourager, Église, j'aimerais que vous puissiez crier « Alléluia, Amen, sauter, tournoyer !» Et de vous dire « Je suis un disciple de Jésus-Christ, pas un fan !» Les fans sont heureux tant que Jésus ne leur demande pas de payer le prix. Là on est fan. Suivre Jésus nous coûtera toujours quelque chose. Pour Nicodème, c'était sa place, son titre, son statut. C'est de se dire, attends, si les gars me voient avec Jésus-Christ en plein... Vous savez, Nicodème pouvait voir Jésus-Christ chaque jour. Et en tant que chef spirituel, il aurait pu arriver dans une foule et tout le monde se serait écarté en disant, vas-y Nicodème, vas-y, parle à Jésus, tu es le chef, vas-y. Il aurait pu le faire, mais il avait trop peur que ça... Son adhésion au cœur de Jésus-Christ, son association avec le roi, le fait de proclamer qu'il comprenait Jésus-Christ aurait pu lui coûter son titre, sa place, sa famille, son argent, son statut. Oh, que vont dire les gens ? Ce soir, je vais te poser une question. Quel est le niveau d'interférence de Dieu dans ta vie ? Parce que j'ai vécu cette semaine, je dormais en fait et j'ai eu un rêve extraordinaire. Écoutez bien ça. Et dans ce rêve, j'étais assis à une table dans un café. J'avais un livre et mon café. Et j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien me retrouver, c'est très rare malheureusement, mais me retrouver dans un café tout seul avec un livre ou mon iPad et lire un livre sans que personne ne me dérange. Juste mon café, un livre et personne ne me dérange. Et en ce moment, c'est très compliqué de faire ça. Mais bon, je m'assois et je lis. Et dans mon rêve, quelqu'un se rapproche. Et j'aperçois dans le coin de l'œil qu'il vient et il s'arrête. Et il me dit, puis-je ? Je lève les yeux et je vois que c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui est venu s'asseoir en face de moi alors que je buvais un café. Et il me dit en face, il me dit, est-ce qu'on peut parler ensemble ? Je dis, bien sûr, Seigneur. Est-ce qu'on est amis ? Et là, j'ai eu un moment de hésitation. Vous savez, tu dis quoi à Jésus ? Là, c'est Jésus. Tant que tu l'oublies qu'il est là, tu dis ce que tu veux. Quand il arrive vraiment, tu ne dis plus ce que tu veux. J'ai déjà vécu ça ? Tu dis des choses, tu avances un peu trop vite, et quand la personne débarque, tu fais « Ah, c'est toi, t'es là, je parlais justement de toi, en bien, bien sûr. » Et je m'assois, et Jésus-Christ me dit clairement, il me dit « La longueur de la discussion correspondra directement à la profondeur de notre relation. Plus elle sera profonde, plus on discutera. Plus elle sera légère, moins on discutera. » Je me suis assis et il a commencé à me parler en me disant, est-ce que tu me laisses interférer dans ta vie ? Et dans mon rêve, il me semble que la discussion a duré une heure. Pas plus, à ma grande honte, une heure. Avec le roi des rois. Et il s'est levé, il a fait, fin de la discussion. À bientôt. Et il est parti. Et je suis resté, j'ai regardé partir, je me suis dit, je n'ai passé qu'une heure avec celui que je déclare aimer, suivre, adorer. Pourquoi ? Je ne sais pas, toi, combien de temps tu pourrais passer avec lui, en face à face, avec ce moment de vérité. Où il te dit en face, est-ce que tu fais ce que je te demande ? Est-ce que tu pardonnes ? Est-ce que tu aimes ta femme ? Est-ce que tes paroles sont suivies des actes concrets ? Est-ce que tu me laisses interférer ? Vous savez, la plupart des chrétiens veulent un lifting. Dieu veut une rénovation totale. La plupart des fans, ce qu'ils veulent, c'est des petits changements du quotidien. Dieu veut mettre ta vie sans dessus dessous. Il veut prendre le contrôle de ton cœur, de mon cœur, de l'Église. Versets 3 et 5, Jésus lui dit, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux ? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ? Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Dieu veut dire, tu sais quoi, quand je viens dans une vie, le fan vit dans la chair, le disciple vit dans l'esprit. Le fan essaye de comprendre les choses avec sa tête, le fan voit des choses superficielles, le disciple comprend mon cœur, ma vie, mes exigences, mes ordonnances, il a un cœur nouveau, il a un esprit nouveau, mon disciple me suit, il marche avec moi, à mes côtés, mon disciple est la manifestation de mon cœur, le fan est la manifestation de l'image qu'il a de mon cœur. Jésus-Christ appelle son Église en 2014, plus que jamais, et ça commence ce soir, à le suivre sans condition. Ma question c'est, combien ce soir dans ce lieu, vous êtes prêts à le suivre sans condition ? À suivre le roi avec passion, pas juste un fan, un disciple. Imagine que toi et moi, nous soyons témoins d'un mariage. Et durant ce mariage, tu es témoin et tu regardes, le mari regarde sa femme et dit, chérie, waouh, jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu espérer épouser une femme telle que toi. Tu es une femme extraordinaire, non seulement tu es belle, mais ton cœur respire le parfum de Dieu. Je m'engage à tes côtés, je m'engage pour toi, je te donne ma vie chérie, tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi, je te respecterai, je vais t'honorer, je vais te servir et te protéger et tu pourras toujours avoir confiance en moi et quand tu me regarderas, tu verras la vie de Christ au travers de moi, je te promets, je fais alliance avec toi aujourd'hui chérie, tu comptes sur moi, je veux être ton mari, je te prends pour épouse, je te dis oui, tout le monde, et les femmes pleurent, les copines sont jalouses, ça c'est un homme, pécarinette. La fille est là, elle pleure, elle fait « How ? How ? How ? How ?» Elle fait « Wow !» Elle dit « J'ai gagné au loto. » J'ai tiré le bon numéro. Elle se dit, quand je te regarde, je vois David et Moïse et Samson. Non, pas Samson. Je vois Pierre et David, je vois Jésus, je vois Paul, je vois Jérémie, je vois Néhémie, je vois tous les hommes de Dieu en un. Je te vois, je te regarde, je me dis que j'ai de la chance, je suis bénie de t'avoir, je suis heureuse, jamais je n'aurais pu penser avoir un homme tel que toi. Je te prends pour époux, je te donne ma vie, je serai avec toi en soumission totale à Dieu et à toi. Oui, nous servirons l'Éternel, nous aurons plein d'enfants, ils seront des hommes de Dieu. Waouh, tout le monde, ouais, tout le monde pleure. Et là, les gars disent, putain, ce gars-là du pot quand même. Et puis, quelques jours plus tard, toi, le témoin du marié, tu débarques, tu viens à la maison, tu frappes à la porte. Après la lune de miel et tout ça, tu arrives, tu débarques, tu cognes. Et t'entends... Entrez, rentrez, entrez. C'est quoi le truc? Tu vois la femme à genoux par terre, la photo du mariage dans la main, le cadre brisé. Tu viens, tu me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a trompé avec ma meilleure amie le lendemain de la lune de miel. Et là, tu dis... Parole, parole, parole. Ce n'était que des paroles. Ce n'était qu'une foi intellectuelle. Je te promets, c'était que du blablabla. Et la femme est brisée et son cœur est détruit. Et elle s'est dit, elle ne sait pas ce qui s'est passé le lendemain de la lune de miel. Vous savez, c'est exactement ce genre de douleur que nous infligeons au roi des rois lorsque nous le disons, nous te servons, nous t'aimons, nous sommes ton épouse, mais nous continuons à vivre une vie qui ne correspond pas à ce que nous croyons. Un fan se paye la liberté de mépriser son idole. Un disciple reçoit la liberté que Christ a payée pour lui. Croire, c'est suivre. Croire, c'est agir. Croire, c'est obéir. Les émotions forment, écoutez bien mes amis, les émotions forment et façonnent l'univers d'un fan, mais les actes d'obéissance construisent les fondations d'un disciple. Les émotions du moment façonnent l'univers d'un fan. Mais ce sont les actes d'obéissance qui construisent jour et nuit les fondements d'un vrai disciple. Et la France a besoin de disciples de Jésus-Christ et non pas de fans. Jacques 2, 14 nous dit, « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ?» Un homme qui ne démontre pas sa foi par ses actes est un fan de Jésus-Christ. Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, « Au revoir mes amis, portez-vous bien, je suis un fan de Jésus-Christ. Restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? » Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en acte, elle est morte. La caractéristique d'un fan, c'est qu'il est animé d'une foi morte. Il chante des chants sur la puissance de Dieu. Il pense aux pauvres. Il pense aux malades. Il prie pour les pauvres, mais il n'agit pas pour les pauvres. Il n'agit pas pour les malades. Il n'agit pas avec la puissance de Dieu, parce que seul un disciple consacré de Jésus-Christ se lève le matin en disant « Je suis né pour briller pour Jésus-Christ ». Un fan, mes amis, un fan est celui qui fait la fête. Un disciple est celui qui va sauver les âmes. Si je crois vraiment en Jésus, alors je le suis vraiment. Croire en Jésus doit être suivi d'actes concrets. Moïse a cru en Dieu et s'est retrouvé face à Pharaon. Noé a cru en Dieu et il a construit une arche. Pas sur la côte, en pleine montagne, à Silaos Land. Daniel a cru en Dieu et se retrouvait face au lion, dans la fosse au lion. Quand tu crois en Dieu, tes actes révèlent cette foi et tes actes prouvent la foi que tu as en Dieu. La différence entre un fan et un disciple, c'est qu'un fan ne se croit pas obligé de prouver sa foi par des actes, alors qu'un disciple sait que ses actes révèlent sa foi. Un fan crie « Jésus, oh, oh, Jésus !» et le lendemain, il continue à boire. Un fan peut crier « Jésus, Jésus !» et le lendemain, il continue à ne pas prier, à ne pas chercher Dieu. Et la vie passe et nous vivons une religion, sauf que nous l'appelons fan de Jésus, loin de sa cause. Et je ne parle pas pour vous ce soir, pour l'église extravagante, j'essaie de vous motiver, vous inspirer, parce que j'ai vécu une semaine très compliquée. Une semaine à essayer de réfléchir et d'aider des couples pastoraux, des leaders d'église, qui m'annonce comme ça au téléphone, « Voilà, je trompe ma femme, que dois-je faire ? » »« Est-ce que tu as des remords ?»« Ben non, pas vraiment, mais je sais que c'est mal. » Le moment de vérité que Dieu nous offre, c'est pour évaluer ce soir et nous encourager à nous dire, « Hey, reste pas un fan si t'en es un ce soir. » Pensez à Nicodème, fan secret, viens voir Jésus en secret. Et j'aime dans Jean 7, je vais être bref, dans Jean 7, parce que Jésus nous aime tellement qu'il va nous donner l'opportunité de devenir un disciple et de ne plus être un fan. Dans Jean 7, 51, je redonne le contexte. Les juifs et les pharisiens veulent stopper Jésus-Christ et ils complotent contre lui. Et Nicodème est parmi eux, parmi tous les sages pharisiens de l'époque. Il est là, et son moment de vérité est là. Il connaît Jésus, il aime Jésus, il est fan de Jésus. Mais il sait que ce n'est pas suffisant, il se bat contre lui, contre son cœur. Il dit, mince, je suis fan, mais je sais qu'il faut faire plus pour Jésus. Et tout d'un coup, les gens attaquent Jésus et il parle et il dit, d'après notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme de cette façon. Nous devons d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait. Et en faisant ça, il provoque un cataclysme. Et les autres lui répondirent, « Est-ce que tu es de Galilée, toi aussi ?» Ses paroles et ses actes, sa prise de position font que les gens le voient associé à Jésus, pour Jésus, avec Jésus, en faveur de Jésus, suivant Jésus. Et il dit, « Es-tu aussi de Galilée, toi aussi ?» Étudie les livres saints et tu verras, un prophète ne peut pas venir de Galilée. Comment est-ce que les pharisiens peuvent même se planter à ce niveau-là ? Jésus leur a dit à eux, vous ne connaissez pas ni, vous ne connaissez ni la parole ni la puissance de Dieu. Mon ami, écoute bien ça, église, ce soir. Les fans pensent connaître la parole de Dieu et la puissance, mais ne connaissent ni la puissance ni la parole. Vous reconnaîtrez un fan lorsqu'il parlera de Jésus avec enthousiasme, mais sans passion, ni obéissance, ni pureté. Et moi, je ne veux pas être un fan. Je ne veux pas être un fan. Et on se moque de lui, on dit « Nicodème, mais ça va pas ou quoi ? Toi aussi, tu es comme Jésus, tu viens de Galilée. » Ce qui m'a touché en lisant cette histoire aujourd'hui, c'est que Nicodème a été gagné par Jésus. Mais ce qui me touche, c'est que pour vous, c'est peut-être pas un grand truc, mais pour moi, c'est énorme. Nicodème était un pharisien, un chef religieux pharisien. Et dans Jean 19, Joseph de la ville d'Arimathée, était un disciple de Jésus-Christ, mais en secret. En effet, il avait peur des Juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord, alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus. Et Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Et il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. 30 kilos de parfum. Les gens qui parlent de ce passage déclarent que, en fait, Nicodème, par cet acte, voulait racheter le temps perdu. Il avait le regret de dire, j'aurais dû suivre Jésus publiquement alors qu'il était vivant. Et maintenant qu'il est mort, je vais lui donner tout ce qu'il me reste. Il avait confié son trésor, 30 kilos de parfum, énorme valeur à l'époque. Et publiquement, Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus, l'enveloppent dans les bandes de tissu en mettant le mélange de parfum. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. Et là, on voit Nicodème qui, au début de la vie de Jésus-Christ, son ministère, vient voir Jésus en secret. C'est un fan, un admirateur, il n'est pas trop sûr. Et au fil de sa vie, les tests s'enchaînent. Écoutez bien, Église, ce soir. Écoutez bien, ce soir, Église. Jésus nous aime tellement qu'il ne nous poursuit pas en changeant son message ou sa volonté pour changer notre cœur. Il nous poursuit en nous mettant continuellement face à son message et sa volonté. Écoutez bien ça. Si l'Église change le message pour attirer des fans, ce n'est pas du tout ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas changé son message, il n'a pas changé sa volonté, il n'a pas changé sa pureté, il n'a pas changé ses directives, il n'a rien changé. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va vous permettre, vous et moi, de traverser des épreuves et des tests afin que nous ayons toujours ces moments de vérité. Quelques jours de cela, ma petite fille Lisa est arrivée de l'école en disant « Papa, il y a un garçon qui m'a écrit une lettre d'amour. 10 ans. J'ai salué son courage et secrètement projeté de l'éliminer. » Je me suis dit « Est-ce qu'on peut faire ça ?» Non, c'est l'humour, ok ? Ça va, on relaxe. Ma fille et moi, on a une discussion. Lisa, 10 ans, on s'est assis, on a discuté un peu sur ce sujet-là. Qu'un petit garçon vient de la voir. Et tous les jours, depuis 2 semaines, le petit garçon se ruine pour elle. Littéralement se ruine. Tous les jours, le petit garçon amène un bonbon, un gâteau. Tous les jours. Je dis à ce rythme-là, il sera ruiné, son papa va me flinguer. Je dis à Lisa, que fait son papa dans la vie? Il est policier. Je fais, oh, oh, oh. Arrête. Et on parle ensemble et elle me dit, papa, comment tu vas faire quand je serai vraiment amoureuse? Je lui dis, ma chérie, quand tu seras vraiment amoureuse, j'aurai un MDV avec ton chéri. C'est quoi un MDV? Un moment de vérité. Elle me fait, ah, tu vas le poser plein de questions. Je lui dis, ouais. Et elle me dit, quelle question vas-tu poser en premier? Je vais m'asseoir et je vais lui dire, quelle est ta vision de Dieu? Ah oui, ok, et après, quelle est ta vision de la vie. D'accord ? Et après, est-ce que tu es extrêmement sérieux avec ma fille ? Et si oui, prouve-le-moi. Elle fait, ok. Ok, papa. Pauvre gars, il est parti. J'encourage ce soir l'Église à rechercher un MDV. Est-ce que, lorsque Christ veut interférer dans notre vie, est-ce que nous lui disons « Oh Seigneur !» Non. Cette semaine, je parlais avec un frère, un leader, un pays étranger. Il m'appelle, il me dit « Pasteur, je ne comprends pas, je suis accusé injustement. » Et la personne me demande d'aller demander pardon aux gens, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, je suis pas d'accord. Je fais ok, j'écoute parler pendant 15 minutes. Il me dit, je suis pas d'accord, il me dit, c'est ridicule. Je fais ok, d'accord, c'est bon, c'est ridicule. Ok, Matthieu 5, je lis pour lui. Matthieu 18, lis. Proverbe 6, vas-y, lis. Éphésiens 4, vas-y, lis. Ouais, pasteur, t'as raison. Je dis, tu es en train de me dire que c'est ridicule d'aller faire la paix avec quelqu'un parce que la relation pour Christ est plus importante que ton adoration. Dans Matthieu 5, Christ dit, si tu penses que quelqu'un a quelque chose contre toi, entre termes, si ta relation n'a pas été guérie, si tu n'as jamais fait le pas de demander pardon, laisse là ton offrande, va faire la paix et reviens adorer. Notre adoration, la qualité de notre adoration repose sur la qualité de nos relations avec les autres. Qu'est-ce que fait un disciple ? Il applique la parole. Qu'est-ce que fait un fan ? Oh Jésus, je t'aime, Je m'en fiche de mon frère, c'est de sa faute, de toute façon je t'aime. Un disciple s'arrête, il fait Seigneur, ok, j'y vais et je fais la paix. Il dit à ce frère, fais-moi une liste de tous ceux et celles à qui tu vas demander pardon. Il m'écrit tout à l'heure, il me dit, la liste est très longue. Je sais pas grave, écris la liste. Il y a des gens que j'ai blessés il y a 15 ans en arrière, je sais pas grave, mets-le dans la liste. Et il me dit, par lequel je commence? Je commence par celui qui est le plus proche de toi. Et je suis persuadé que cet homme-là est en train de quitter le monde des fans pour entrer dans le monde des disciples. Vous savez pourquoi? Parce qu'il applique la parole de Dieu. Il n'est pas comme ce mari qui a dit oui, tu es ma femme, un grand speech, tout le monde a pleuré, tout le monde a dit waouh, et le lendemain, ses actes n'ont pas suivi ses paroles. Croire, c'est suivre Christ. Croire, c'est obéir à Christ. Croire. Croire en Jésus, ça se voit. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez prier ensemble et se demander réellement, est-ce que je suis un disciple ou un fan? Je ne parle pas d'aller au ciel ou en enfer, je ne parle pas, je ne vais pas juger votre vie sur le ciel et l'enfer, je peux vous dire une chose, c'est que Christ n'est pas mort sur une croix pour avoir des fans. Il est mort sur une croix pour avoir des disciples. Des hommes et des femmes qui le servent.